Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve aujourd'hui à Dakar, qui vient d'accueillir ces deux derniers jours deux événements organisés par la Fondation Galien. Depuis près de 50 ans, le prix Galien récompense les traitements innovants, la recherche thérapeutique, ce qui a valu à cette distinction le surnom de Nobel de la recherche biopharmaceutique. C'est la toute première fois que le forum et le prix Galien s'arrêtent sur le continent africain. L'occasion de rencontres, d'échanges scientifiques, d'ateliers thématiques sur des questions de santé publique directement inscrite dans l'actualité sanitaire et sociale de la sous-région. Les questions de l'accès aux médicaments, du financement des politiques de santé ou de la couverture maladie ont ainsi été abordées à Dakar. Les débats ont porté sur l'impact de la malnutrition sur la santé ou encore du fardeau des maladies non transmissibles, diabète, cancer, hypertension, ainsi que de la riposte aux maladies infectieuses et aux pandémies plus que jamais d'actualité. À côté de ce programme très dense, au sujet duquel nous allons échanger dans quelques minutes avec nos invités ici en plateau, autre temps fort de ce forum, en conclusion, c'était hier soir au palais présidentiel, la remise des prix Galien International, trois distinctions, trois lauréats dans trois catégories, biotechnologie, pharmacie et technologie médicale. Des récompenses dont les champs rejoignent les thèmes abordés dans les ateliers. Et hier soir, c'est le président du Sénégal, Macky Sall, qui officiait pour dévoiler ce palmarès.
Les maladies ne connaissent pas les frontières. Il nous faut donc apporter également la contribution de l'Afrique dans la recherche et les résultats. Comme nous avons eu le bonheur de le rappeler, vous l'avez dit, nous avons des références qui font notre fierté et nous souhaitons en avoir plus pour que nos chercheurs en médecine, en biotechnologie, en pharmacie, en odontologie puissent également faire partie entièrement de la communauté scientifique internationale. Je félicite les lauréats puisqu'ils sont par le fruit de leur labeur, de leur recherche, souvent dans l'intimité et la solitude qu'ils ont pu arriver à ce stade et qu'ils aideront l'humanité entière dans la bataille que nous vaincrons et que nous devrons vaincre contre la maladie. En tout cas, je vous remercie et bonne fin de soirée.
Le nom de ces lauréats dévoilés hier par Macky Sall au palais présidentiel à Dakar pour la remise de ces trois prix, Galien International. Et avant justement d'entendre la réaction et les explications des lauréats, on va revenir à ce forum, présenter d'abord nos trois invités. Deux de ces invités au féminin sont des médecins, chercheurs. Ici à Dakar, coprésidente du programme scientifique de ce premier forum Galien Afrique, professeur Awa Marie-Colsec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre d'État de la République du Sénégal, ex-ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Avec nous aussi, professeur Françoise Barré-Sinoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-découvreuse du VIH, prix Nobel de médecine 2008, présidente du CIDACTION et présidente d'honneur du réseau international des instituts Pasteur. Et pour participer à cette émission, autour de cette table également, Bruno Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Fondation Galien.
RFI à Dakar, 92 FM.
Alors, mesdames, messieurs, nous allons expliquer dans un instant en quoi ce forum scientifique trouve toute sa place ici à Dakar. Mais on va quitter pour quelques minutes le Centre international de conférences Abdou Diouf, où est enregistrée notre émission, pour rejoindre le palais présidentiel et y retrouver les trois lauréats.
Et le gagnant du prix Galien International 2018 est AAZ pour autotest VIH.
On retrouve donc le premier lauréat récompensé dans ce domaine honoré par le prix Galien, la technologie médicale, un secteur qui intéresse particulièrement nos deux invités en plateau, le professeur Awa Marie-Colsec et le professeur Françoise Barré-Sinoussi. Dépistage du VIH, il s'agit de l'autotest pour un autodiagnostic du virus d'immunodéficience humaine, dépistage indispensable pour la prise en charge, pour la prévention, approche recommandée par l'OMS et donc récompensé à Dakar. Bonjour.
Je m'appelle Joseph Coulocq, je suis docteur en biologie. J'ai eu l'honneur d'être récompensé ce soir
pour notre produit qui est l'autotest de dépistage du VIH. C'est un outil supplémentaire donc qui a été mis à la disposition de tous ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller se faire dépister d'une manière classique dans les laboratoires hospitaliers.
Alors, quel est votre sentiment ce soir? On a parlé notamment dans Priorité Santé, de cet autotest très important pour aller voir les personnes qui ne veulent pas se faire dépister dans certaines communautés par exemple. Est-ce que vous avez par exemple une idée de la diffusion de votre produit, de votre dispositif, justement pour dépister ces personnes qui jusque-là ne connaissaient pas leur statut sérologique?
Absolument. Et dès le début où l'autotest a été diffusé en France, nous avons eu, la surprise de voir qu'il y avait énormément de primo-détecteurs. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne s'étaient jamais fait dépister et qui, naturellement, propageaient cette épidémie cachée. Et grâce à l'autotest, grâce au fait qu'ils aient fait cet acte, parce qu'il était justement anonyme, et bien ça leur a permis de se dépister, de découvrir leur séropositivité et surtout de se guérir aussi et de ne pas contaminer les autres.
Une illustration en France, illustration ici, on est à Dakar en Afrique. Quelle perspective justement pour utiliser cet autotest dans cette région, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest?
Alors, l'autotest, c'est un test de laboratoire qui est aussi fiable, aussi sensible et aussi spécifique que les autres, mais... nous avons tenu à ce qu'il soit dispensé, je dis bien dispensé, c'est pas vendu. Dispensé, ça veut dire que les pharmaciens d'officine vont aussi être aussi bien en amont de l'acte de dispensation que en aval. C'est-à-dire que ils conseilleront le patient qui se sera dépisté, ne le laissera pas seul, justement, avec cette angoisse de séropositivité. Il leur dira d'abord d'aller se faire confirmer dans un laboratoire, et ensuite, naturellement, de se faire traiter.
Avec aussi une implication des acteurs communautaires et des militants des associations.
Absolument, absolument. C'est complètement indispensable d'ailleurs, parce que c'est grâce justement à l'action des associations, que ce soit aide ou HF prévention, c'est grâce à ces associations donc qui ont les tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD, qu'on s'est aperçu que l'autotest justement pouvait être fait par des non-biologistes, par des non-professionnels.
Merci beaucoup pour cette diffusion donc de l'information aussi sur la santé. Merci et félicitations.
Dans la catégorie meilleur produit de biotechnologie, le gagnant du prix Galien International 2018 est Biogen et Ionis Pharmaceutical pour Spinraza.
Des lauréats dont les innovations illustrent donc ces applications recherche de solutions concrètes pour les défis de santé, avec le domaine des biotechnologies qui est honoré ce soir, entre biologie et innovation technologique, comme la génétique par exemple, et c'est précisément le traitement d'une pathologie héréditaire rare, l'atrophie musculaire spinale, maladie génétique qui hypothèque l'espérance de vie des jeunes enfants, qui a été récompensée, son nom, le Spinraza.
David Nestor from Biogenetic. Biogen.
Je m'appelle David Nestor de la société Biogen. Spinraza est indiqué en cas d'atrophie musculaire spinale, une maladie rare. C'est le premier traitement qui est autorisé pour cette maladie. C'est une maladie assez complexe. Le traitement permet de produire des protéines dans l'organisme d'enfants et d'adultes qui en sont atteints. Nous travaillons dans le monde des neurosciences. Spinraza est notre premier médicament dans le domaine de l'AMS. Au départ, il a été disponible aux États-Unis, où il a été approuvé dans un premier temps. Ça s'est ensuite étendu en Europe et dans de nombreux pays à travers le monde.
Dans la catégorie du meilleur produit pharmaceutique, le gagnant du prix Galien International 2018 est Boehringer Ingelheim for Guardians.
Et le dernier des trois lauréats, alors que le forum de Dakar a abordé la question du poids grandissant des maladies non transmissibles, eh bien sûr on pense au diabète. Et dans le domaine des médicaments, c'est un produit prescrit pour les personnes atteintes de diabète de type 2 qui est distingué. Bonjour, hello mister.
My name is Michael Mark from Boehringer Ingelheim.
Et donc, vous avez gagné justement ce prix, prix du médicament. Ce traitement s'appelle le Jardiance.
Jardiance est non seulement un médicament hypoglycémiant, mais c'est aussi le premier produit indiqué dans le diabète de type 2, qui a pu démontrer que les taux de morbidité et de mortalité des maladies cardiovasculaires étaient réduits de façon significative. Les gens ne meurent plus autant qu'avant de complications cardiovasculaires. Ils vivent plus longtemps grâce au Jardiance. Il a été commercialisé aux États-Unis en 2015. Jusqu'à ce jour, des millions de personnes prennent ce traitement qui est efficace et sûr. Il est déjà disponible dans différents pays en Afrique. Il sera disponible au Sénégal, Niger et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Nous sommes de retour au Centre international de conférences Abdou Diouf en compagnie de nos trois invités. Mesdames les deux coprésidentes du programme scientifique de ce premier forum galien Afrique, professeur Awa-Marie Colsec, professeur Françoise Barré-Sinoussi, ainsi que Bruno Cohen, directeur de la Fondation Galien. Je m'adresse d'abord à vous, professeur Awa-Marie Colsec, ministre d'État, chercheur, ex-praticien, chef de service hospitalier également, il y a quelques années de cela. Avant d'aborder la question générale de la pertinence de ce type de grand Raoult, comme on dit, grand forum scientifique. Une question qui nous ramène au prix Galien international, puisque l'on a vu des innovations thérapeutiques récompensées ici à Dakar, ce qui pose directement la question de l'accès à ces produits, l'accès à la médecine, à ces progrès, médecine de pointe, professeur Awa-Marie Colsec, médecine de pointe, mais pour qui ?
La médecine de pointe pourrait être considérée comme une médecine pour les riches, qu'ils soient dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Mais justement, grâce à l'innovation, on a la possibilité de rendre ces médicaments, ces diagnostics, toutes ces, disons, ces techniques aussi qui pourraient aider pour la santé des personnes. On peut utiliser des innovations. Innovation dans la manière de produire, parce qu'il y a peut-être des possibilité de rendre moins cher certains produits, je ne parle même pas de génériques et autres, mais ne serait-ce que dans la fabrication. Il y a aussi innovation quand on parle de diagnostics qui peuvent se faire à distance, avec la possibilité de la télémédecine, etc. Donc c'est dire que l'innovation peut essayer de régler le problème. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette relation entre industrie pharmaceutique et patient soit une relation au cours de laquelle on pensera aussi au coût des médicaments, au coût des produits. Et ça, c'est un appel que je lance.
Un appel notamment pour un certain nombre de produits innovants. On l'a vu récemment de façon très, très crue avec la question de l'hépatite C, ce coût des traitements, le coût de la prise en charge, certains coûts justement pris en charge par des ONG. Là, il y a véritablement un effort de plaidoyer à réaliser. Et là, on est aussi dans la santé, mais on est au premier chef dans la politique.
Tout à fait. Vous avez entendu aussi le cri du cœur de Monsieur le Président de la République lors de l'ouverture donc de ce forum, qui a eu à poser le problème des coûts et un réel problème pour nos populations. Il faut dire que cela nous permettra, si vraiment nous prenons en compte cela et que le plaidoyer est bien fait et que nous avons l'écoute des personnes qui prennent des décisions au niveau même de la fabrication, de la recherche pharmaceutique, que l'on puisse penser aux patients surtout.
Alors justement, on va reparler forcément de cet accès à l'innovation. Mais d'abord, pertinence de ce type d'événement ici à Dakar, ici en Afrique de l'Ouest, vous l'organisateur en quelque sorte, Bruno Cohen, question sur la pertinence et le bénéfice commun. C'est vraiment l'objectif de notre émission, santé publique, priorité santé. Que peut générer ce type de rencontre? Il y a la communication, mais on a envie de vous demander, au-delà, qu'est-ce qu'il y a?
Oui, vous avez raison, il y a le fond, il y a la forme. Là, on adresse la forme parce que, effectivement, rien ne se passait en termes de, je dirais, d'équivalent de Davos de la santé, puisque c'est comme ça qu'on positionne notre initiative grâce à la coprésidence du professeur Barré-Sinoussi et de Madame Awa-Marie Colsec. Mais qu'est-ce qu'on met dans ces tuyaux? Mais en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'innovations sont déjà en train de naître en Afrique. On cite souvent l'exemple de la livraison de pochettes sanguines en drone. C'est né ici, sur ce continent. Il y a beaucoup, et c'est un peu aussi l'impact des politiques, donc il y a des mouvements qui adressent effectivement, inciter les jeunes chercheurs à rester en Afrique. On en rencontre beaucoup. Et donc, et grâce à ce qu'on appelle maintenant à l'ère numérique, les voies de communication sont beaucoup plus facilitées. On parle de digital health.
Et donc, effectivement, numérique.
Voilà. Donc, à partir de là, il n'y a plus ces problèmes de barrières qu'il y avait avant. Donc l'innovation comme la créativité, en Afrique, on s'en rend compte tous les jours. Donc il y a vraiment des jeunes talents et ils ont juste besoin qu'on les mette un petit peu en avant. Ou c'est un peu le rôle effectivement de ce que nous initions, c'est de mettre en relation peut-être les financeurs ou en tout cas les industriels, ceux qui cherchent, parce que vous savez que cette industrie aussi a besoin.
De fonds pour avancer.
Voilà, donc ils peuvent apporter des fonds, mais ils ont aussi besoin. Et on se rend compte que maintenant, ils externalisent énormément, tous ces grands groupes externalisent énormément leurs recherches, préfèrent faire des deals avec des startups que de lancer des programmes de recherche internes qui leur coûtent beaucoup plus et qui sont moins effectifs en termes de retour sur investissement.
Avec cette dimension donc intergénérationnelle, professeur Françoise Barrécine aussi, justement, c'est l'un des choix ici, la transmission avec ces ateliers et un retour d'expérience avec cette jeune génération, notamment des étudiants en sciences, un petit peu, on va dire, la crème des étudiants.
Tout à fait. En particulier, hier, nous avions des panels avec des jeunes leaders pour justement un petit peu les mettre en contact, comme le disait Madame la Ministre, avec des seniors et essayer de stimuler leur créativité, essayer de stimuler leur motivation, leur passion pour essayer de développer de nouveaux outils. Notamment, il y avait un panel avec les femmes. Je crois que c'est important de stimuler les femmes à devenir des leaders dans le domaine scientifique. C'est quelque chose d'autant plus important que personnellement, je suis complètement certaine que dans le domaine de la santé, en tous les cas, les femmes peuvent donner beaucoup. On en a un exemple ici avec Madame la Ministre.
On en a deux exemples, effectivement.
et franchement, je pense que peut-être justement à cause à la fois de cette tradition, de cette culture qui pendant des années a bloqué les femmes dans leur domaine familial, aujourd'hui, il faut leur faire prendre conscience qu'elles peuvent donner en dehors de leur domaine familial, qu'elles peuvent donner aux autres. Et ça, elles savent très bien faire.
C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs quand on va à la faculté de médecine et qu'on voit le grand nombre de jeunes filles étudiantes.
Partout.
Et ça se voit, vraiment partout. Ça se voit. Alors, est-ce que d'après les premiers échanges, ce à quoi vous avez assisté, professeur Awa-Marie Colsec, vous avez l'impression déjà que ce rendez-vous a vraiment pris son sens ici à Dakar?
Tout à fait. Vous savez, pour chaque panel, déjà hier, il y a eu ce forum de jeunes où des sommités ont eu à expliquer quel était leur parcours, ce qui avait été fait. Et les jeunes aussi ont beaucoup partagé, ont posé des questions, ont été très, très sensibles à cela. Aujourd'hui, nous avons eu dans le premier panel, par exemple, un jeune de Guinée qui s'est exprimé, à mon avis, même mieux que les seniors, en posant les problèmes et en disant que eux aussi, il faut qu'ils restent en Afrique. Ils sont des futurs leaders. Ils se considèrent même déjà comme des leaders et ils voudraient pouvoir garder tout ce qu'ils ont appris au service des populations africaines. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je pense que s'il y a un vrai succès, c'est vraiment ça. Et il faut qu'on continue dans ce sens parce que cette année, nous nous sommes limités au pays de la CEDEAO avec des jeunes qui ont été sélectionnés, il faut le dire, ce sont les meilleurs des universités de ces pays-là qui sont à Dakar aujourd'hui. Et donc, si on continue comme ça, en élargissant, ça va faire vraiment un grand mouvement. Et je suis très optimiste, vraiment.
Un investissement sur la jeune génération. Alors justement, cette Afrique qui trouve toute sa place dans cette réflexion scientifique. Le prix Galien, il existe depuis 1970. Je m'adresse à vous, Bruno Cohen. Alors, aujourd'hui, à Dakar, pourquoi seulement aujourd'hui?
Écoutez, oui, c'est une bonne question. En fait, le prix Galien qui est né en France en 1970 avait été créé par un pharmacien, Roland Mel. Et en fait, le prix a suivi, d'abord, la genèse, l'ADN de ce prix, c'était qu'il y avait beaucoup de prix qui étaient créés, comme le prix Nobel, évidemment, ou qui reconnaissaient des individualités, ou le prix Lascar, mais il n'y avait rien qui reconnaissait, en fait, ces chercheurs qui travaillaient dans l'industrie à l'époque pharmaceutique. Et en fait, le prix Galien a suivi l'évolution de l'industrie pharmaceutique. Les innovations étaient nées là, évidemment. Mais maintenant, on se rend compte, comme on l'a dit précédemment, que les innovations sont ailleurs. c'est disruptif. On ne sait même pas si finalement les futures générations de laboratoires pharmaceutiques seront pas plus des boîtes qui viennent des hautes technologies plutôt que des pure players, comme on dit, de l'industrie. Donc on vit en plein dans ce moment-là un peu critique, et on se rend compte une fois encore que l'innovation en Afrique est quelque chose de prégnant. Donc c'est un peu ça, on a suivi un peu la courbe un peu historique de cette industrie.
Alors on voit cette super innovation, et puis en même temps il y a des préoccupations, on va dire, très concrètes, très quotidiennes. C'est ce qu'on voit avec le programme que vous avez concocté ici. Par exemple, on parle de accès aux médicaments essentiels. Il faut jamais oublier que quand on a par exemple une infection, une poussée de fièvre, c'est pas toujours évident dans certaines régions d'avoir accès à ces médicaments. Professeur Awamari Kolsek, comment on fait justement ce lien entre cette super technologie qui peut aussi se traduire par des médicaments, et puis toujours ces problèmes d'accès aux médicaments essentiels, et encore plus ici en Afrique, simplement des produits de santé de qualité?
Nous avons eu la chance d'avoir avec nous le professeur Daoud Ndiaye, qui est un professeur à l'Université de Dakar et qui a découvert une technique immunogène pour faire le diagnostic du paludisme. Il en a parlé avec les jeunes et il leur a montré que même dans nos pays en développement, on peut faire de la recherche et on peut trouver des choses. Aujourd'hui, il est même conseiller à la Harvard School of Tropical Medicine. Et donc, c'est quand même pas n'importe qui, mais il a pu faire des choses en Afrique. Je pense qu'il faudrait faire ce genre d'exercice. On a eu d'autres professeurs qui ont fait des découvertes. Le professeur Souleymane Boub, qui a aussi parlé de son expérience. Donc, ce sera peut-être cela l'avenir, vraiment, de ce partage. Il y a également la possibilité, puisque c'est dans ce sens que nous allons, d'avoir le prix Galien Afrique. Ce qui permettra maintenant aux jeunes et aux même plus anciens d'entrer en compétition et d'avoir un prix sur notre continent.
Et un facteur de motivation supplémentaire.
Une motivation supplémentaire.
Professeur Françoise Barré-Sinou, nous, si on connaît vos travaux, justement, quand on travaille en laboratoire, quand on est chercheur, est-ce qu'à côté du défi de l'innovation, on pense toujours à la cible, aux patients, au public, et à savoir bien sûr que cette innovation sera mise toujours au service du plus grand nombre, parce qu'on a un petit peu ce cliché du professeur dans son labo qui est coupé de la réalité humaine. C'est pas la vérité.
Le VIH-SIDA nous a sorti complètement de ça. Nous a sorti de ça puisqu'on a eu, nous chercheurs de laboratoire, du jour au lendemain, on s'est retrouvés face à des personnes qui étaient touchées par une maladie et qui venaient directement nous voir pour mieux comprendre ce qu'était cette maladie, pour essayer de savoir quand on allait trouver justement des outils pour les traiter. Et depuis, je parle de cela, c'était les années 80, ce lien entre chercheurs, entre personnel soignant, entre patients, représentants de patients, reste très fort. Pour moi, je trouve que le VIH-SIDA est un modèle qu'il faut garder justement en tête et développer pour bien d'autres pathologies que le VIH elle-même. Aujourd'hui, on a des personnes représentant les patients, des associations qui deviennent eux-mêmes des chercheurs.
Des partenaires.
Absolument. Plus que des partenaires. Plus
des
que des partenaires.
À l'effort
Ils sont
commun.
À l'origine de questions de recherche elles-mêmes. Par exemple, quand on pense aux tests rapides. Les tests rapides, l'utilisation en milieu communautaire, le projet au départ de valider ces tests en milieu communautaire a été proposé non pas par des chercheurs de laboratoire, mais par des associations représentant de patients.
Qui explique que comme ça, on a vraiment accès aux gens qui resteraient en dehors, par exemple, cette dynamique de dépistage en institution de santé.
Alors, non seulement on y a accès, mais c'est pas l'accès, pour moi, n'est pas le point principal, parce que on peut avoir accès. Le point principal, c'est d'avoir justement cet échange entre chercheurs et représentants de patients qui est essentiel justement pour mieux savoir ce qu'attendent les patients et nous, les chercheurs, d'essayer de définir des projets de recherche qui répondent à leurs attentes. Et ça, c'est tout à fait critique. Et puis, nos projets de recherche, les faire relire par les patients pour qu'ils critiquent les projets eux-mêmes.
Avec une véritable interaction, professeur Marie-Claude, vous voulez réagir.
Cette interaction aussi est importante parce qu'aujourd'hui, ces fameux chercheurs dont on parle qui étaient dans leur bulle, ces chercheurs sont aussi membres d'ONG, sont aussi sur le terrain. Donc les gens ne sont pas restés, moi-même ça m'est arrivé aussi, on s'est dit c'est pas possible, surtout avec le sida. Le sida a été une grande école et je pense qu'il faut vraiment que pour tout maintenant on ait la même manière de voir, qu'on s'implique dans les communautés, que les communautés soient des vrais partenaires et que ce soit pas seulement des gens sur lesquels on travaille. Et ça c'est une nouvelle problématique et moi je crois que ça a été une bonne école.
Le développement de leaders en Afrique, j'y pense pour le panel qu'on va avoir justement sur les maladies infectieuses. Quand on regarde autour de la table, il y a des gens comme Souleymane Boub, comme Nicolas Méda, comme Slim Abdul Karim. Ce sont des gens de la communauté VIH-Sida au départ. Ça montre que finalement cette recherche sur le VIH-Sida a entraîné un élan et le développement de la recherche en Afrique, directement en Afrique, avec l'émergence de leaders exceptionnels.
Bruno Cohen, on parle de recherche, on parle d'innovation, on parle de ces patients, de l'interaction entre les chercheurs et la société civile, bien sûr. Et il y a toute cette dimension éthique. Justement, vous avez souhaité placer l'éthique au centre de ce rendez-vous.
Oui, absolument. C'est quelque chose qui était pour nous très important. Il se trouve que quand le prix Galien a été créé en 70, il a été relayé après à New York et on a créé une fondation avec Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, le regretté Elie Wiesel. Et lui, au contraire, il n'avait rien à voir avec la recherche, c'est un philosophe. Il n'était à l'aise qu'au milieu d'étudiants. Et pour me rappeler simplement que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais il a mis au centre finalement ses valeurs éthiques. C'est à quoi ça sert de trouver des médicaments s'ils sont pas partagés par le plus grand nombre. On dit souvent les médicaments au nord, les patients au sud. Et donc c'est lui qui a véritablement imprégné cette dimension éthique et il a créé il y a 25 ans un mouvement qui s'appelait les leaders de demain, où là il adressait des problématiques. Par exemple, il disait par exemple, je n'ai pas le vaccin contre la haine, mais je sais que ça passera par l'éducation. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait des forums, il mettait dans les mêmes ateliers comme on est ici, et donc il mettait des jeunes Palestiniens et des jeunes Israéliens pendant 3 jours, des jeunes Serbes et des jeunes Croates. Ils faisaient dialoguer, ils avaient 18, 20 ans. Et ça, cette dimension éthique, pour lui, elle était essentielle. Et c'est peut-être ce supplément d'âme qu'on apporte ici à Dakar. C'est effectivement mettre l'éthique au centre des débats également.
Avec justement un terme qui revient pratiquement systématiquement dans nos émissions, quand on parle de santé, que ce soit au nord ou au sud, c'est la stigmatisation. J'aimerais vous faire réagir sur ce sujet, parce que là, on est vraiment dans l'éthique. L'éthique, c'est pouvoir se soigner. L'éthique, c'est pouvoir aussi vivre dans sa communauté, y compris quand on est malade. Professeur Awa-Marie Kolsek, est-ce qu'on peut travailler comme ministre et comme chercheur sur cette question de la stigmatisation?
C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de ce lien important entre les chercheurs, entre les politiques et la société civile. Et c'est ça qui va nous permettre de régler les problèmes de discrimination. Non seulement, on a beaucoup parlé de sida dans cette émission, et c'est parce que c'est une école, je le répète encore. Et c'est ce lien qui a permis d'ailleurs de lutter et de se battre au quotidien contre la discrimination qu'il y avait envers les personnes vivant avec le VIH. Mais c'est aussi aujourd'hui une lutte contre les malades du cancer. Les malades du cancer ont aussi leur discrimination.
Notamment en matière de santé mentale également.
Santé mentale, même chose. Donc en réalité, la discrimination, elle est là. Et c'est vraiment ce partenariat entre ces différents acteurs qui permettra d'aller de l'avant.
Et qui passe aussi par une certaine forme de visibilité, professeur Françoise Barressine aussi, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, dans ce travail au quotidien avec des personnes désormais qui montent à des tribunes, qui ont leur place dans des colloques et qui ont toute leur légitimité.
Complètement, c'est la lutte contre les inégalités. Pour nous, il n'y a aucune différence entre les chercheurs, entre le personnel soignant, entre la société civile. Pour lutter contre ces inégalités, il est clair qu'il faut faire participer la société civile. Une fois de plus, le VIH-Sida nous l'a appris. Combien il est important justement pour permettre l'accès aux soins,
à la prévention, de travailler avec la société civile elle-même pour passer des messages, auprès des populations d'une part. Ebola nous l'a rappelé au départ. Ebola, il y a eu des erreurs faites au départ d'Ebola. Parce que justement, on s'est pas appuyé suffisamment sur la société civile pour aller faire passer des messages d'information et de communication auprès des populations. Donc, le tous ensemble est totalement critique justement pour lutter contre les inégalités.
Alors, on a parlé beaucoup des maladies infectieuses, professeur Awamari Kolsek, mais une tendance ici au sud, c'est cette explosion des maladies non transmissibles. On en parle justement pendant ce rendez-vous du Forum Galien. Il y a des problèmes ici directement liés à la santé des pays en développement et en même temps se greffent, on va dire, des soucis qui sont plus que des soucis liés à des économies, à des défauts, à des abus d'économies développées. C'est un double défi aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on parle de double fardeau dans nos pays en développement ou pays qui se battent au quotidien pour s'en sortir, mais qui ont aussi un défi des maladies infectieuses pour lesquelles il y a eu de gros progrès, mais toutes ces maladies qui arrivent et qui sont de plus en plus importantes. Je vous donne deux chiffres seulement. Une enquête faite au Sénégal a montré que chez les adultes, il y avait 5% des adultes qui avaient le diabète, 25% des adultes qui avaient une hypertension artérielle. C'est vous dire que c'est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est presque, je peux dire, une bombe. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus un intérêt à discuter de ce genre de pathologie. Nous avons eu ça pendant le Forum des jeunes. Nous aurons également un panel sur les maladies non transmissibles au cours donc du Forum. C'est dire que c'est une de nos priorités. Je voulais aussi insister sur la participation des associations de malades. Et aujourd'hui, durant ce forum, nous avons des malades qui sont là, des insuffisants rénaux, nous avons les cardiopathes, nous avons l'association des diabétiques, juste pour donner ces exemples, les personnes vivant avec le VIH. Donc c'est vraiment pour nous une opportunité de mettre à côté, ensemble, et à discuter et à partager des grands experts de grande notoriété comme les prix Nobel, les grands professeurs, avec les jeunes, mais aussi avec les malades.
Vous parlez justement tout à l'heure de ces pathologies chroniques, hypertension, diabète. Ça pose aussi la question de distribution, d'accès à des soins au long cours. On le sait très bien, se pose aussi la question de l'urbanisation, de l'accès aux programmes de santé en milieu rural. Professeur Awamari Kolsek, on en vient à un grand sujet, c'est un grand cheval de bataille ici, c'est la couverture santé, couverture maladie universelle. Est-ce que justement, entre cette innovation d'un côté et cet accès, ce droit à la santé pour tous, on peut trouver une connexion parce qu'il y a forcément derrière un problème de financement?
Tout à fait. En Afrique en général, plus de la moitié des coûts sont pris en charge par les populations elles-mêmes. Et c'est ce qui a pousser vraiment Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, quand il était même en campagne électorale avant 2012, en visitant tous les villages du Sénégal pratiquement, s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de financement. Et dès qu'il est arrivé, il m'a demandé en tant que ministre de la Santé de m'occuper de cette initiative de couverture maladie universelle. Il n'y avait que 20% de la population qui était couverte par une assurance maladie, qu'elle soit privée ou publique avec les fonctionnaires. Et tout le monde, disons, informel, comme on l'appelle chez nous, n'était pas assuré, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, les coiffeurs, les couturières, etc., et même les chômeurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette couverture maladie universelle qui s'est basée sur une approche communautaire. Et cela a permis aujourd'hui de passer à 50% pratiquement de la population qui a accès d'une manière ou d'une autre, soit par des soins gratuits comme les enfants de 0 à 5 ans, ou bien les insuffisants rénaux, ou bien d'autres comme les diabétiques où il y a eu une subvention importante qui a diminué le coût de l'insuline ce qui fait que même certains pays de la sous-région viennent au Sénégal pour acheter leur insuline. Mais c'est pas grave, c'est quand même des efforts qui ont été faits pour pouvoir permettre aux patients de ne pas toujours payer de leur poche. Et c'est un effort qui est en cours, qui va se consolider parce que ce n'était pas facile et qui, dont l'objectif final, c'est en 2022 d'arriver à une vraie couverture universelle. C'est un grand défi, mais les gens y croient et il y a déjà des personnes qui témoignent et qui disent « Depuis que j'ai adhéré à ma mutuelle de santé, aujourd'hui, je ne paye que 20% pour mes médicaments au lieu de payer les 100%. Je vais gratuitement dans les structures, etc., etc. »
Et ça marche aussi très certainement en faveur de la prévention. On attend moins que la maladie soit grave, on va consulter plus tôt, les coûts sont inférieurs et surtout, le risque, la dangerosité de la maladie est contenue.
Vous avez raison. Il y a aussi toute une éducation qui a été vraiment galvanisée et dans l'éducation pour la santé. Et aujourd'hui, il y a même l'utilisation du numérique pour rappeler à certains « faites du sport, faites de ceci », etc. Donc c'est devenu une nouvelle mentalité et nous pensons que cela aussi aura un effet sur les maladies non transmissibles particulièrement. Mais dire que pour l'assurance maladie, il y a aussi la vaccination qui est prise en charge, c'est de la prévention.
C'est essentiel. Professeur Françoise Barrécine aussi, on parle justement de ces différences en matière d'accès. Il y a aussi une différence qui est très importante ici, c'est la surveillance de terrain, c'est la prise conscience des données, des chiffres épidémiologiques. On sait que c'est plutôt performant pour certaines maladies, on peut dire même pour certaines infections. On voit sur Ebola qu'il y a des veilles très efficaces qui sont mises en place. Par contre, pour d'autres maladies, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'il peut y avoir aussi cette amélioration en matière d'information à la santé pour que les scientifiques travaillent sur des données fiables?
Je crois qu'il est important justement d'avoir des structures, des centres de recherche, des centres de surveillance dans les pays, justement pour un certain nombre de maladies, pas seulement les maladies infectieuses classiques, mais qu'on aille bien au-delà de ces maladies. Aujourd'hui, en plus, il y a des systèmes de surveillance informatique, géographique, qu'il faut développer justement dans les pays et qui, en fonction justement du réchauffement climatique, peut être faire permettre de développer des modèles et de prédire quelle va être l'ampleur de ce changement climatique sur telle ou telle maladie transmise par des vecteurs. Tout cela nécessite d'être développé, bien sûr, sur le continent africain. Un certain nombre de structures en Afrique utilisent déjà ces méthodes et il faut les développer très certainement.
Professeur Omari Kolsek, pour faire une illustration par rapport à ce que vient de dire Françoise Barrécine aussi, on peut dire que, par exemple, le réchauffement climatique pourrait avoir un impact direct sur le paludisme?
Tout à fait. Des zones où le paludisme était en voie d'élimination, s'il y a un retour à une très forte pluviométrie ou aux eaux stagnantes qui avaient disparu, il peut y avoir tout à fait un regain. C'est pour ça que nous avons aussi un panel sur le changement climatique et son impact sur la santé. Là aussi, des grands experts vont nous en parler et nous en parlent au quotidien et nous en parlent depuis que nous avons commencé ce forum. Et cela apportera beaucoup à la réflexion parce qu'il ne faut pas travailler d'une manière cloisonnée. C'est ça aussi notre problème. Il y a les grands chercheurs et les grandes sommités sur le changement climatique, d'autres sur la santé qui ne se parlent pas.
Et des fois, même les auditeurs qui ont du mal à comprendre ce changement climatique dont on parle, on va dire surtout au nord, parce qu'au sud, en général, ils se posent plus trop de questions parce qu'ils voient déjà les effets. Ils le voient, ils le ressentent. Ils le ressentent avec les cultures, ils le ressentent avec tout un tas de changements aussi dans le paysage. Mais il y a aussi une question qu'on n'a pas abordée. Je voudrais peut-être, ce sera une des dernières parties de cet échange, c'est la question des personnels. Il y a les chercheurs, on va dire, il y a le gratin, hein, comme on dit trivialement. Il y a ces étudiants aussi, la jeune génération prometteuse. Et puis, il y a toutes ces petites mains dans les centres de santé, tous ces personnels soignants, même des aides-soignantes, les sages-femmes, les infirmières, toutes ces personnes qui sont aussi à l'accueil, les personnels administratifs, tout ce personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays au sud ont les moyens de former aussi avec l'enjeu du défi de la démographie, former ce personnel soignant de demain, professeur Awa-Marie-Colsec?
Il faut dire que ça va être très difficile. Et nous avons, dans tous les pays, fait beaucoup d'efforts pour notamment recruter du personnel, leur donner une formation adéquate. Les écoles sont là, les universités également. Mais nous avons souvent, d'ailleurs, des problèmes pour recruter ce personnel. Donc, il y a encore des médecins qui chôment, il y a encore des infirmiers qui chôment, il y a encore des sages-femmes dont on a besoin. Il y a ce personnel administratif qui, lui aussi, il y a des écoles de formation qui existent dans la gestion des hôpitaux, etc. Donc, le vrai problème, c'est moins de comprendre qu'on en a besoin que d'avoir les moyens de les prendre en charge. Et peut-être aussi d'augmenter le niveau de la formation vers certains aspects aussi importants que la recherche.
Alors la confrontation justement entre ces mondes, est-ce que pour vous, Bruno Cohen, le fait de venir, tout à l'heure vous employez le terme de Davos, hein, Davos c'est ce grand forum, on va dire, des super riches en Suisse pour développer des projets économiques, se rencontrer, etc. Est-ce que le fait de venir ici, ça ouvre les yeux à un certain nombre de personnes ?
Oui, ben précisément. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pris ce terme de Davos qui est très inapproprié, on en convient. C'est-à-dire quand Davos a été créé, c'était effectivement pour adresser les problématiques purement économiques du monde. Et puis le président Lula en Afrique, au Brésil, avait créé lui pour dire vous vous trompez, c'est pas une question que économique, c'est surtout une question sociale. Donc il a créé le forum de Porto Alegre. Et nous, on a trouvé qu'effectivement, au milieu de ces deux univers, ce sont les problématiques de santé qui adressent aussi bien les questions économiques qui peut financer, mais aussi bien les problèmes de société. Et donc ça, les questions d'accès aux soins, etc., sont effectivement importants. Donc c'est là où on pense qu'on est très différenciant ici à Dakar, c'est que on a une approche holistique de ces questions-là. Et comme aussi bien le professeur Barry-Sinoussi que madame la ministre d'État Awa-Colsec, ce qui est très intéressant, c'est d'observer ces dialogues entre des prix Nobel et des jeunes étudiants en médecine. Et comme ça, on a une approche à 360 degrés. Les industriels pharmaceutiques sont bien sûr là, mais les autres acteurs, ceux qui permettent, les acteurs dans le domaine numérique, même les questions de brevets, etc., tous ces aspects-là sont adressés. Et c'est ce qui fait peut-être l'originalité de cette initiative.
Alors justement, tour de table, hein, on arrive à la conclusion car à côté des avancées de la recherche, à côté de toutes ces équipes qui travaillent dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les universités, il y a des besoins essentiels non pourvus, même si aujourd'hui, au cours de cet échange, on a quand même parlé beaucoup d'espoir, mais il y a quand même un énorme chantier devant nous, espérance de vie réduite dans certaines régions, amputée faute de médicaments de qualité, de personnel compétent, on va dire hein, d'accès à l'anesthésie. Il y a des régions où il y a pas d'oxygène, il y a pas de poche de sang, difficulté de la transfusion, y compris donc des soins primaires dans certains lieux. Ce fossé malgré tout entre cette médecine du Nord et du Sud, vaste question, qu'est-ce qui est susceptible de le réduire? Je commence par vous, Bruno Cohen.
Même ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est on initie des mouvements et effectivement avec en relais cette société digitale, maintenir le lien, on se dit pas on va se retrouver dans un an et puis on se dira ce qu'on s'est dit l'an dernier. Donc là on va maintenir le lien, on a initié des axes de dialogue et grâce aux social media, à tout ce qui concerne l'environnement numérique, on va au contraire, on va créer une sorte de think tank permanent sur ces questions-là. Et on pense qu'on aura quelque chose à proposer aux grandes institutions, puisque le patron de l'OMS est là aussi, et de leur donner pourquoi pas un petit, peut-être pas un beige book, mais un petit guidelines qui serait pondu à chaque fois.
Alors on est francophone, des petites lignes conductrices, voilà. Et en s'appuyant beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de traduire ensuite. Justement, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour changer les choses, professeur Françoise Barry-Sinoussi.
Je crois que pour changer les choses, la première chose, c'est qu'il y ait une volonté politique. Tout part de là. Au niveau mondial, on voit très bien que dans des pays où il n'y a pas de volonté politique, où il y a des conflits, ça va bien moins bien encore dans le domaine de la santé. Donc pour moi, c'est un point critique. Et pour qu'il y ait une volonté politique, et ben parfois il faut faire des pressions. Et c'est là où les activistes, d'ailleurs, ont leur rôle à jouer très fort, comme on l'a vu autrefois. Je pense aussi que le rôle du partenariat public-privé est à prendre en considération dans l'avenir. justement pour améliorer la situation dans les pays les plus démunis. Ça me paraît être aussi essentiel. Et puis faire comprendre finalement, j'allais dire partout dans le monde, que les problèmes qui existent dans les pays pauvres sont des problèmes qui peuvent exister partout, à n'importe quel moment dans le monde. La santé, c'est un problème universel, c'est un problème qui n'a pas de frontières.
On parlait politique, je me tourne vers vous pour la toute dernière conclusion, professeur Awa-Marie Kolsek. Il faut de la volonté politique, mais même quand on a des responsabilités politiques, est-ce qu'on a toujours les moyens de ce que l'on voudrait voir arriver à son pays?
C'est une question importante, puisque il y a bien sûr tous les engagements, tous les vœux que nous avons, le travail acharné, mais il y a aussi la nécessité d'avoir les moyens. Et c'est pour cela que la volonté politique peut aider. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons, par exemple, un budget qui a été presque multiplié par 2 en 10 ans. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté politique. Mais je dis toujours, moi, j'en ai pas assez. Il n'y a pas assez d'argent. De toutes les manières, on n'en aura peut-être jamais assez. Mais il faut continuer la pression, il faut en parler. Une autre chose qui me semble importante pour répondre à la question globale, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur les types de partenariats, mais l'appropriation aussi par les populations, l'appropriation par les communautés de ces enjeux-là, ça aidera énormément. Donc il ne faut pas que seulement il y ait un engagement politique, mais il faut que les populations elles-mêmes se battent au quotidien et disent « nous avons besoin de telle ou telle autre chose », mais également « voilà notre contribution pour trouver une solution au problème ».
Et cette santé communautaire, peut-être que l'Afrique a des leçons à donner au Nord aussi sur l'implication des populations.
Il y a des exemples en Éthiopie, au Rwanda, vous avez les Badienougor, les marraines de quartier au Sénégal. Donc tout ça, ce sont des initiatives communautaires et qui vont faire et qui font avancer vraiment la santé des populations.
Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, notre échange se termine ici à Dakar. On remercie nos invités pour ce débat autour de ce forum scientifique. Professeur Awa-Marie Kolsek, ministre d'État de la République du Sénégal, coprésidente du programme scientifique de ce premier forum Galien-Afrique. Avec vous, professeur Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine. Merci aussi pour votre participation, Bruno Cohen, directeur de la Fondation Galien, partenaire de Priorité Santé pour cette émission enregistrée à Dakar.
RFI à Ziguinchor, 87.6 FM. Saint-Louis, 99.7 FM.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen et Richard Rifono. Demain, nous restons à Dakar pour une émission Priorité Santé enregistrée en public à l'occasion du centenaire de l'École de médecine de l'Afrique occidentale française qui est devenue la Faculté de médecine. Émission en public avec nos invités, bien sûr les étudiants. Ça se passera dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Diop. On se retrouve donc demain, toujours à Dakar.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier.